Charles Louandre, La sorcellerie. C'est une croyance universelle et, pour ainsi dire, une tradition native du genre humain que l'homme, à l'aide de certaines formules et de certaines pratiques, empruntées tantôt à la religion, tantôt à la science, peut changer les lois éternelles de la nature, soumettre à sa volonté les êtres invisibles, s'élever au-dessus de sa propre faiblesse et acquérir la connaissance absolue et la puissance sans limite. Ces dons supérieurs auxquels il aspire, il les demande indistinctement aux éléments, aux nombres, aux astres, aux songes, au principe éternel du bien comme au génie du mal, aux anges, à Satan. Égaré par son orgueil, il crée toute une science en dehors de l'observation positive. Et pour régner en maître absolu sur la nature, il outrage à la fois la religion, la raison et les lois. Cette science, c'est la magie qui se divise, suivant les temps et les lieux, en une infinité de branches. Kabbale, divination, nécromancie, géomancie, philosophie occulte, philosophie hermétique, astrologie, etc. Science empoisonnée dans sa source, qui se résume au Moyen-Âge, dans la sorcellerie, et qui, toujours maudite, toujours combattue par les lois de l'Église et de la société, reparaît toujours impuissante et convaincue. La Bible parle à diverses reprises et partout avec sévérité des hommes ou des femmes qui se livrent à la magie. Il ne se trouvera parmi vous, est-il dit dans le Deutéronome, chapitre 23, verset 10-11, personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui professe la divination ou qui prédise les temps. Ni enchanteur, ni sorcière, ni personne qui consulte des esprits familiers ou qui soit magicien ou nécromancien. Les mêmes défenses se retrouvent dans le Lévitique et l'évocation de l'ombre de Samuel par la pythonisse d'Endor, les prodiges opérés par les magiciens de Pharaon, les accusations portées contre Manassès, prouve que les pratiques des œuvres occultes n'étaient point étrangères aux Israélites. Ces faits ont donné lieu à un grand nombre de commentaires. Quant à nous, nous nous bornerons seulement à les constater ici, en ajoutant que la plupart des commentateurs ont remarqué que rien n'indique qu'il y ait eu chez les Juifs, comme au Moyen-Âge, entre les démons et les sorciers, un pacte réel. Satan, dans la tradition sacrée, n'est jamais ce qu'il fut plus tard, l'esclave obéissant de l'homme. Il ne sert point ses passions et ses vices. Et comme le dit Bergier, si les faits surnaturels dont il est parlé dans l'Ancien Testament doivent être attribués aux démons, il faut en conclure seulement que Dieu consentait à ce que l'esprit infernal les opérât, soit pour faire éclater sa puissance, en opposant aux prodiges des magiciens d'autres prodiges plus nombreux et plus étonnants, soit pour punir les hommes de leur curiosité superstitieuse. Satan reste soumis à la volonté divine. Quand il étrangle dans la chambre nuptiale les sept premiers maris de Sarah, quand il fait tomber le feu du ciel sur les troupeaux de Job, quand il déchaîne l'ouragan contre sa maison, il n'agit jamais qu'avec la permission de Dieu, et Dieu lui permet d'agir pour éprouver son fidèle serviteur et faire briller sa foi et sa vertu d'un plus grand éclat. Ainsi, entre la magie et le rôle de Satan dans l'Écriture, et la magie et le rôle de Satan dans le Moyen-Âge, il y a ces différences essentielles et profondes, que d'un côté, le démon n'est jamais qu'un vaincu qui n'agit que par la permission de Dieu, qui reste entièrement indépendant de l'homme, et qui, dans la sphère même la plus redoutable de son action, n'est encore que l'instrument docile du souverain maître. Dans la sorcellerie, au contraire, le démon est asservi à la volonté de l'homme. Il se met au service de ses haines, de ses passions. Il se révolte de nouveau contre Dieu et semble vouloir faire retourner le monde à l'antique idolâtrie. Cette distinction nettement établie, et sans toucher davantage aux questions qui sont placées par la foi en dehors de la discussion, nous allons marcher à notre aise à travers le rêve et la légende, en nous attachant toujours à porter autant que possible l'ordre et la clarté au milieu de ce chaos et de ces ténèbres, et en établissant des classifications rationnelles dans ce sujet où la plupart des historiens qui l'ont traité marchent au hasard, comme dans un véritable labyrinthe. Les écrivains de l'Antiquité, historiens ou poètes, sont remplis de nombreux témoignages qui attestent l'importance de la magie et de la sorcellerie dans le monde païen. Dans l'Inde, ces prétendues sciences se confondent constamment avec la religion. On les retrouve en Égypte, en Thessalie, en Chaldée, dans la Grèce et à Rome. Quelques-uns des écrivains anciens, grecs ou romains, qui parlent de la magie, la divisent en deux branches distinctes. L'une théurgique, qui relève uniquement de la religion et de la science, et qui ne cherche que le bien. L'autre goétique, qui n'agit que par l'intermédiaire des génies malfaisants ou des dieux infernaux, et qui ne cherche que le mal. Ces deux branches, de même qu'elles ont un but et un esprit différents, procèdent également par des moyens opposés. Dans la théurgie, le cérémonial est grave et sérieux. La première condition imposée à ceux qui la pratiquent, c'est la pureté. Ils ne doivent point se nourrir de choses qui aient vécu. Ils doivent éviter tout contact avec les cadavres. Dans leurs invocations, ils ne s'adressent qu'aux génies bienfaisants, à ceux qui veillent au bonheur des hommes. Les herbes, les pierres, les parfums étant chacun le symbole particulier d'une divinité, le théurgiste les offrait aux dieux qu'il voulait se rendre favorable, mais pour que l'opération réussît, il devait nommer tous les dieux et présenter à chacun d'eux l'offrande qui lui était agréable. Une corde rompue, dit Jean Blic, dérange toute l'harmonie d'un instrument de musique. Ainsi, une divinité dont on a oublié le nom ou à laquelle on n'a point présenté la pierre, l'herbe ou le parfum qui lui plaît, fait manquer le sacrifice. La théurgie, comme la religion, avait des initiations, de grands et de petits mystères. On en attribuait l'invention à Orphée, qui était considéré comme le plus ancien des magiciens. Cette science ne changeait rien aux idées que la théogonie païenne se formait des dieux, et toutes deux suivaient les mêmes rites pour arriver au même résultat. Il n'en était pas de même de la magie goétique qui s'adressait aux divinités malfaisantes ou à celles qui présidaient aux passions. Cette magie avait un appareil sombre. Elle cherchait, pour ses opérations, les lieux souterrains, les herbes vénéneuses, les ossements des morts, les plus redoutables imprécations, et n'agissait que pour nuire. Du reste, la distinction entre les deux sciences était fort difficile à maintenir. Et si quelques esprits supérieurs ont tenté, en se ralliant à la théurgie, d'en faire l'auxiliaire des cultes païens dans ce qu'ils avaient d'aspiration spiritualiste, la foule ne tint jamais compte des différences. La théurgie et ses mystères restèrent à l'état de doctrines occultes, et la goétie, comme la sorcellerie du Moyen-Âge, dont elle est l'aïeul direct, tenta, comme elle, de s'emparer du monde et d'assurer à l'homme l'entière satisfaction de tous ses penchants, de toutes ses passions, de tous les désirs de ses sens et de toutes les ambitions de son esprit. Comme la sorcellerie, elle procédait par des conjurations et par une foule de pratiques absurdes ou minutieuses, à l'aide desquelles elle espérait asservir les dieux, les êtres du monde suprasensible, les éléments, les astres et toutes les forces vives de la nature. Porphyre nous a conservé les formules de conjuration des magiciens égyptiens. Ces magiciens s'adressaient au soleil, à la lune et aux astres. Il leur disait que, s'ils ne se prêtaient point à leurs désirs, ils bouleverseraient la voûte du ciel, qu'ils découvriraient les mystères d'Isis, qu'ils exposeraient ce qui était caché dans l'intérieur du temple d'Abydos, qu'ils arrêteraient la course du vaisseau de l'Égypte, et que, pour plaire à Typhon, ils disperseraient les membres d'Osiris. Les enchanteurs de l'Inde procédaient de même par la menace et l'imprécation. Seulement, ils s'adressaient aux génies au lieu de s'adresser aux astres, et leur écrivaient au lieu de leur parler. La plupart des recettes qui figurent en si grand nombre dans les livres de la sorcellerie moderne se retrouvent dans l'Antiquité. Sans parler de la divination qui faisait partie intégrante du culte, les philtres, les charmes, les évocations des morts, les métamorphoses d'hommes en animaux, tout cela est dans le paganisme gréco-romain. Homère nous montre le devin Tirésias préparant une fosse pleine de sang pour évoquer les mânes. Il nous montre Circé changeant en pourceau les compagnons d'Ulysse, comme Horace nous montre Charidie et Sagone se rendant la nuit dans un cimetière pour procéder à leur maléfice. Là, elles enterrent un jeune enfant, tout vivant, pour préparer un filtre avec son foie et sa moelle. Elles ramassent des herbes malfaisantes, des ossements desséchés. Elles déchirent une brebis noire et versent son sang dans une fosse creusée avec leurs ongles. Elles animent, comme les envoûteurs du Moyen-Âge, des figures de cire et les brûlent ensuite. Les poètes, dans ces récits, ne font que traduire les superstitions populaires. Car le monde païen n'est pas moins riche en légendes de cette espèce que le monde fantastique du Moyen-Âge. S'agissait-il d'évoquer un mort, on pouvait en toute sûreté recourir au magicien de Thessalie. On savait que quand les lacédémoniens eurent fait périr de faim Pausanias dans le temple de Pallas, des magiciens avaient été chargés de débarrasser ce temple du spectre qui venait y rôder chaque jour et en écarter la foule. Dans ce but, ils évoquèrent les armes de plusieurs citoyens qui, pendant leur vie, avaient été les ennemis déclarés de Pausanias. Et celles-ci, en retrouvant le spectre de l'homme qu'elles avaient détesté, lui donnèrent une telle chasse qu'il n'osa plus se présenter et laissa parfaitement paisibles les visiteurs du temple. Voulait-on se faire aimer d'une femme ? On demandait aux disciples des prêtres de Memphis, pour l'enterrer sur le seuil de la maison qu'elle habitait, la laine des reins chargée d'images lascives. On savait que les magiciens faisaient tomber la grêle, le tonnerre, qu'ils excitaient les tempêtes, qu'ils voyageaient par les airs, qu'ils faisaient descendre la lune sur la terre et qu'ils transportaient les moissons d'un champ dans un autre. On savait que pour se défendre de leurs maléfices, il fallait faire des fumigations de soufre ou clouer à la porte de sa maison une tête de loup. Les plus grands hommes eux-mêmes acceptaient ces croyances. César avait son amulette et Auguste portait pour talisman une peau de veau marin dans la persuasion que cette peau le préserverait de la foudre. À Rome, comme chez nous, les magiciens, les sorciers, qui n'étaient souvent en réalité que des malfaiteurs ou des empoisonneurs, abritant leurs crimes sous le mystère d'une doctrine secrète, furent rigoureusement poursuivis par les lois. Ils s'étaient tellement multipliés en Italie, au temps de Tacite, sous le nom de mathématiciens, ils s'y livraient à de si ténébreuses pratiques que ce grand historien les place au nombre des plus redoutables fléaux de l'Empire. Et malgré la sévérité des lois romaines qui les frappaient des peines les plus sévères, malgré l'exil ou la mort, ils reparaissaient toujours plus nombreux et, comme les sorciers du Moyen-Âge, ils semblaient se multiplier par la persécution. Lorsque l'Évangile se vit propagé dans le monde romain et qu'il eut renversé les autels des dieux païens, on vit se produire un phénomène étrange. Parmi les nouveaux chrétiens, un grand nombre acceptant comme un fait réel l'existence des divinités de l'Olympe, considérèrent ces divinités comme des démons. Et la croyance se répandit que Satan, ligué avec tous ses vaincus du passé, contre le vainqueur de l'avenir, animait d'une vie factice leurs idoles mouvantes. Et Salvien s'écria tristement « Le démon est partout, ubique daemon ». Les folies du vieux monde firent invasion en se modifiant dans la société nouvelle. À la chute du paganisme, ces rites, ces formes cérémonielles multiples et variées, se convertirent en pratiques superstitieuses, en magie. Diane devint le démon Dianum, et conduisit les femmes au sabbat, comme Mercure avait conduit les âmes dans le royaume des ombres. L'influence de ce que l'on pourrait appeler l'agonie de l'idolâtrie sur les sciences occultes du Moyen-Âge est un fait évident et incontestable, et qui se produisit en même temps pour le polythéisme et le culte druidique. On sait qu'au Ve siècle, une sorte de résurrection de ce culte se manifesta dans la Grande et la Petite Bretagne. Déshérités de leur antique puissance comme Jupiter et Vénus, les bardes furent également adoptés par les superstitions populaires, et l'on vit paraître alors un être intermédiaire entre le magicien inspiré et le savant de la théurgie antique et le sorcier des démonographes. Cet être d'une nature supérieure à celle de l'homme et qui se rapproche des génies de l'Orient, c'est l'enchanteur, dont nous allons parler avec quelques détails à cause de la place qu'il occupe dans la tradition et la littérature du Moyen-Âge. Le type le plus parfait de l'enchanteur du Moyen-Âge, c'est Merlin, personnage réel qui vécut, on le sait, au Ve siècle dans la Bretagne armoricaine et que l'on retrouve partout à travers le Moyen-Âge dans l'histoire, la légende, la poésie et les romans chevaleresques. Les voix prophétiques qui avaient parlé si longtemps dans les vieilles forêts de la Gaule ne pouvaient se taire tout à coup. Aussi Merlin est-il prophète. Fantastique incarnation des dernières traditions du druidisme, de la mythologie scandinave et du polythéisme, il défend la nationalité bretonne comme Velleda défendait sa patrie germaine. Il aide Arthur dans ses longues luttes contre les Danois, comme Ulysse aidait Agamemnon de ses conseils et de sa sagesse. Dans sa transformation nouvelle, il garde les vieilles habitudes de l'idolâtrie celtique. Il aime les fontaines d'eau vive perdues dans les bois, les chênes centenaires. Et comme les dieux de l'Edda, il a son loup familier qui va chasser pour lui. Les astres, ses confidents habituels, lui révèlent tous les secrets de l'avenir, la destinée des rois et celle des peuples. Il sait tous les mystères de la création, il connaît tous les esprits qui président à l'harmonie des sphères. Si l'on en croit l'un de ses biographes, Robert de Borron, qui écrivait au XIIIe siècle, Merlin était né d'une religieuse et d'un démon incube. Sa mère l'avait conçu en dormant, et pour se purifier de cette souillure, elle fit vœu, pendant le reste de sa vie, de ne manger qu'une fois par jour. Le mystérieux enfant, qui n'avait point de père parmi les hommes, vint au monde noir et velu. En le voyant ainsi pareil aux bêtes fauves, sa mère changea de couleur. Mais lui, pour la rassurer, s'écria en souriant « Mais je ne suis point un diable !» L'effroi n'en fut que plus grand. Le bruit de cette naissance étrange se répandit bientôt. La pauvre mère fut citée devant le juge. « Vous êtes sorcière, lui dit ce magistrat, je vais vous faire brûler. » « Je vous le défends, dit Merlin en sautant les bras de sa mère. Respectez cette femme ou malheur à vous, car mon pouvoir est plus grand que celui des hommes. Et si vous en doutez, écoutez ce que va vous dire le fils de l'incube. » Merlin, alors, découvrit au juge certains secrets intimes de son ménage que celui-ci était loin de soupçonner. Le pauvre mari oublia la sorcière pour ne songer qu'à sa propre femme, car les détails étaient tellement précis qu'il ne pouvait douter de son infortune. C'est ainsi que Merlin révéla pour la première fois cette intuition mystérieuse qui devait élever son nom si haut dans l'admiration des peuples, et cependant, à cette époque, il n'était âgé que de 6 mois. Une vie qui débutait par de pareils prodiges devait être féconde en merveilles, et elle le fut en effet. L'enchanteur avait le don de se rendre invisible ou de se donner telle ressemblance qu'il voulait en se frottant avec le suc des herbes. Il transportait d'un mot à de grandes distances, les pierres les plus pesantes, et lui-même, monté sur son cerf bien-aimé, il franchissait l'espace avec la rapidité de l'éclair. Dévoué jusqu'à la mort au roi Arthur, il le sert dans ses guerres et dans ses amours. Il l'aide à triompher des pièges de ses ennemis et des pièges bien plus redoutables de la femme, tout en s'y laissant prendre lui-même. Un jour, en se promenant dans une forêt, il rencontre une jeune fille d'une éclatante beauté. Il s'arrête, surpris et troublé, et d'une voix caressante, « Douce dame, lui dit-il, daignez me prendre à merci, je vous dirai de merveilleux secrets. Souhaitez-vous des fleurs, je ferai pousser des rosiers au milieu de la neige. Souhaitez-vous d'être belle éternellement, je préparerai pour vous le bain qui efface les rides. » La jeune fille sourit. Merlin, pour prouver sa puissance, frappa la terre d'un coup de baguette et une forêt magnifique s'éleva aux alentours. Pour prix de cette galanterie, Merlin demanda et obtint une entrevue nouvelle. Viviane, c'était le nom de la jeune femme, promit de revenir et tint parole. Mais ce jour-là, l'enchanteur fut vaincu. Viviane surprit tous les secrets de son art, et Merlin, sentant qu'il allait quitter le monde, se rendit auprès du roi Arthur pour lui donner le baiser d'adieu. Puis il alla trouver Maître Blaise, qu'il avait élevé. « Adieu, Maître Blaise, lui dit-il, je vous donne une grande tâche. Recueillez les souvenirs de ma vie, mes révélations sur l'avenir, et transmettez-les par un livre à ceux qui vivront après nous. » « Je vous le promets, dit Maître Blaise. » Le livre, en effet, fut écrit, et ces prédictions de l'enchanteur, devenues au Moyen-Âge les oracles de l'Angleterre, ont été consultées et invoquées par elle à tous les moments solennels de son histoire. L'enchanteur, en quittant Maître Blaise, se rendit auprès de Viviane. Et celle-ci, qui le voyait triste et craignait une séparation, lui demanda comment on pouvait retenir un prisonnier sans lui mettre des fers et sans l'enfermer dans une prison. Merlin lui donna pour cette opération une formule magique. Fatale indiscrétion qu'il devait expier bientôt. Le soir, en se promenant dans la forêt de Brocéliande, il se reposa au pied d'un buisson d'aubépine et s'endormit. Viviane alors détacha sa ceinture et, traçant avec cette ceinture un cercle autour de lui, elle l'enferma pour toujours dans une enceinte sans issue. Une tour indestructible, dont l'air même avait cimenté les pierres, s'était élevée sur la ceinture et avait enfermé Merlin jusqu'à la fin des siècles. Depuis ce jour, la forêt de Brocéliande étend sur la tour ses rameaux qui ne flétrissent jamais, et Viviane veille au pied des murailles, comme cette pieuse matrone qui garde le tombeau du roi Édouard et qui tresse sur le front de ce saint roi des cheveux dont la mort n'a point arrêté la croissance. Quant à Merlin, il est toujours vivant et captif, et le voyageur, en passant dans les verts sentiers de Brocéliande, l'entend soupirer dans sa tour. On le voit par ce qui précède, les enchanteurs, dont Merlin est, comme nous l'avons déjà dit, le type le plus parfait, les enchanteurs ont une toute autre physionomie que les sorciers. L'enchanteur est un être surhumain qui a reçu, en venant au monde, un pouvoir surnaturel. C'est le frère des génies et des fées. Les sorciers sont tout simplement des hommes. L'enchanteur fait indistinctement le bien et le mal. Le sorcier ne fait que le mal. L'enchanteur est vénéré par les peuples, célébré par les poètes. Le sorcier est méprisé par tout le monde. En un mot, l'enchanteur est un personnage célèbre, transfiguré par la légende. Aristote, Virgile ou Merlin, et le sorcier une espèce de truand, qu'il est bon qu'à brûler ou à pendre. Les enchanteurs, du reste, ont toujours été beaucoup plus rares que les sorciers, et l'on vit un duc de Savoie dépenser en pure perte 100 000 écus pour en trouver un. L'ignorance, l'extrême imperfection des connaissances humaines, l'attrait du mystère et de l'inconnu, l'ambition de se faire craindre, les malheurs d'une société grossière et sans cesse exposée à tous les désastres, telles sont les causes qui contribuèrent à propager la magie et la sorcellerie dans l'Europe du Moyen-Âge. Et cette triste aspiration vers les mystères du monde infernal prouve combien alors était profonde la misère et la barbarie. La croyance est universelle et la terreur toujours persistante jusqu'au seuil même de notre temps. Tous les hérétiques des premiers siècles de l'Église, les basilidiens, les carpocratiens, les gnostiques, les manichéens, sont accusés de magie et de sorcellerie. En France, l'existence des sorciers nous est révélée par le plus ancien de nos codes, la loi salique qui porte au chapitre 47. Quiconque en appellera à un autre sorcier ou l'accusera d'avoir porté la chaudière au lieu où les sorciers s'assemblent et ne pourra le prouver, sera condamné à 2 500 deniers d'amende. Grégoire de Tours nous apprend que le duc Boson usait de sortilèges et qu'à cette époque, c'est-à-dire au VIe siècle, on n'entreprenait rien d'important sans recourir aux enchantements et aux phylactères. À Gobard, qui écrivait au commencement du IXe siècle, parle de certaines gens qui excitaient les tempêtes et d'autres qui pouvaient, au moyen de ce qu'il appelle « aura levatitia », se transporter à travers les airs. Agobard était évêque de Lyon, et l'on était si convaincu de la vérité de ce fait dans son diocèse qu'on lui amena un jour un homme et une femme qu'on avait vu tomber du ciel. Dans le monde entier, la contagion fut générale. Dans toutes les contrées de l'Orient, soumises à l'islamisme, la magie, au Moyen-Âge, était regardée comme la science par excellence, et il se forma sur son histoire une foule de légendes dans lesquelles se confondent en s'altérant les traditions chrétiennes et musulmanes. Suivant l'une de ces légendes, Adam lui-même aurait inventé la magie. Suivant d'autres, les descendants de Caïn s'y seraient adonnés les premiers. Et Cham, au moment du déluge, en aurait été le dépositaire et le propagateur. N'osant point porter avec lui dans l'arche les livres qui traitent de cette science, il en grava en 3 000 vers, suivant les uns, et en 200 000 vers, suivant les autres, les principaux dogmes sur des pierres très dures qui résistèrent à l'effort des eaux. Ces pierres furent recueillies par son fils Misraïm, qui fonda de nombreuses écoles, entre autres la célèbre école de Tolède, où dans les XIIe et XIIIe siècles, on venait de tous les points de l'univers étudier les sciences occultes. Par une bizarrerie singulière, ces sciences se développèrent en raison même du progrès de la civilisation, et le XVIe siècle, qui fut vraiment le grand siècle du scepticisme, fut aussi le grand siècle de la sorcellerie. Les écrits sur les sciences occultes se multiplièrent, protégés par l'imprimerie. Elles eurent alors un rapport marqué avec les affaires publiques et les sorciers, les astrologues et les devins furent souvent consultés pour les choses du gouvernement comme on avait fait des oracles dans l'Antiquité. À cette date, cependant, sous la pression des études scientifiques, la magie et la sorcellerie elles-mêmes tentèrent de se manifester sous des formes nouvelles. Elles se rapprochèrent de la philosophie des sciences exactes comme on peut le voir dans le traité célèbre d'Agrippa, de la philosophie occulte. La sorcellerie fut vivement attaquée par quelques esprits éminents, tout en gardant sur la foule son antique puissance. Et ce fut seulement dans les dernières années du XVIIe siècle qu'elle perdit le prestige dont elle avait joui si longtemps. Comme les sciences les plus positives elles-mêmes, la sorcellerie a un but nettement déterminé et une série de formules et de pratiques à l'aide desquelles elle opère. Son but est le même dans tous les temps. Elle veut donner à l'homme la connaissance des secrets de la nature, satisfaire tous ses désirs, lui révéler le passé, l'avenir, le rendre riche, puissant, invisible comme les esprits, léger comme les oiseaux. Elle veut soumettre à sa volonté les êtres du monde suprasensible, réveiller les morts de leur sommeil éternel, défendre le sens du vieillard contre les atteintes de l'âge, livrer au jeune homme les femmes qu'il convoite, débarrasser l'amant de ses rivaux, l'ambitieux de ses ennemis. Elle est donc dans son but essentiellement matérialiste et sensuel. Elle est impie dans sa curiosité, parce qu'elle veut pénétrer les secrets que Dieu cache aux yeux des hommes. Elle est sacrilège parce qu'elle parodie les prières et les mystères les plus vénérables de la religion. Elle est absurde dans ses pratiques parce que, laissant de côté l'expérience et l'observation, elle attribue à ce qu'elle appelle les forces élémentaires des vertus qu'elle ne possède pas, qu'elles ne peuvent pas posséder. Aux yeux de la religion, elle n'est qu'une idolâtrie, parce qu'elle rend aux créatures un culte qui n'appartient qu'à Dieu. Et quand l'Église la proscrit, elle a, comme la science, complètement raison contre elle. Ceci posé, nous allons indiquer d'abord les diverses branches dont l'ensemble constitue les sciences occultes et qui servent comme de prolégomène à la sorcellerie, ce vaste pandémonium de toutes les aberrations de l'esprit humain. Au premier rang et dans les hautes sphères de l'illuminisme, nous trouvons la Kabbale, sorte de dégénérescence de la théurgie antique qui enseigne à découvrir le sens mystérieux des livres sacrés et à se mettre en rapport direct avec Dieu, les anges et les esprits élémentaires, au moyen de certains mots auxquels est attachée une puissance surnaturelle. On distingue deux sortes de Kabbale. La haute Kabbale, la plus ancienne, qui s'inspire des 10 attributs de Dieu, couronne, sagesse, intelligence, clémence, justice, ornement, triomphe, louange, base et règne. Cette Kabbale reconnaît en outre 72 anges, agents intermédiaires entre l'homme et Dieu, et qui prêtent leur assistance à l'homme pour l'élever au-dessus de la condition ordinaire. La Kabbale élémentaire, beaucoup moins abstraite, opère au moyen de 4 sortes d'esprits qui sont les sylphes, qui président à l'air, les salamandres au feu, les ondines à l'eau, les gnomes à la terre. Tandis que la Kabbale cherche dans la combinaison des lettres empruntées au nom de Dieu, des anges ou des génies un pouvoir supérieur à celui de l'homme, la science des nombres cherche ce même pouvoir dans l'arrangement mystérieux des chiffres. Ces deux prétendues sciences ont été plus particulièrement cultivées par les Arabes et par les Juifs. La divination n'est pas moins importante. Cette branche, si longtemps populaire des sciences occultes, se subdivise elle-même en une foule de branches accessoires, dont la plus célèbre est l'astrologie. L'astrologie, ou l'art de prédire l'avenir par l'inspection des corps célestes, remonte à la plus haute antiquité. On a retrouvé dans le tombeau de Ramsès V, roi d'Égypte, des tables astrologiques pour toutes les heures de tous les mois de l'année. Tibère et la plupart des empereurs romains consultaient les astrologues. Les plus grands esprits du Moyen-Âge, Machiavel entre autres, ont cru à leur infaillibilité. À la cour de Catherine de Médicis, ils ont joui d'un crédit sans bornes, et quand Louis XIV vint au monde, l'astrologue Morin, placé dans la chambre même de la reine-mère, fut chargé de tirer son horoscope. Parmi les mensonges des sciences occultes, il en est peu qui ait fait autant de dupes. En effet, en empruntant quelques points et pour certains problèmes astronomiques, la certitude du calcul, l'astrologie avait pu prédire quelquefois les révolutions qui s'accomplissent dans l'espace. Et comme c'était une croyance générale que les 7 planètes et les 12 constellations du zodiaque gouvernent, c'est le mot consacré, le monde, les empires et les diverses parties du corps humain, On était logique dans l'erreur en pensant que ceux qui avaient surpris dans l'infini le secret des astres pouvaient, à l'aide de ces mêmes astres, surprendre sur la terre les secrets de la vie de l'homme. Nous trouvons encore à côté de l'astrologie une foule d'autres pratiques dont le but était de connaître l'avenir. Ce sont les sorts des saints qui s'obtenaient au Moyen-Âge en ouvrant au hasard les saintes écritures, comme dans l'Antiquité, les sorts virgiliens en ouvrant les livres des poètes. Le néuromancie, l'aéromancie, la pyromancie, l'hydromancie, la physiognomonie, la métoscopie, la cartomancie, l'astrogalomancie, la léconomancie, l'alphitomancie, la rhabdomancie, la cléidomancie, l'anthropomancie, la géomancie, etc., c'est-à-dire la divination par les songes, par les phénomènes de l'air, les mouvements de la flamme, l'eau, les lignes du visage, les rides du front, les lignes de la main, les cartes, les dés, les pierres précieuses, la farine, la baguette, les clés, les entrailles de l'homme, l'aspect de la terre, etc. Ces divers modes de divination étaient pour la plupart très inoffensifs dans la pratique, mais presque toujours désastreux dans leurs résultats, parce qu'en trompant sur l'avenir ceux qui étaient assez crédules pour y avoir recours, ils les enchaînaient d'avance à une sorte de fatalité mystérieuse et anéantissaient leur libre arbitre. Aussi l'Église eut-elle toujours le soin de proscrire, quelles qu'elles fussent, toutes les pratiques dont nous venons de parler, en les considérant avec raison comme un danger pour l'homme et un outrage envers Dieu qui seul peut lire dans l'avenir. Bien que l'alchimie soit en général considérée comme une aberration des sciences naturelles plutôt que comme l'une des subdivisions de la magie et de la sorcellerie, nous croyons cependant devoir lui donner place à côté de la cabale, de l'astrologie et de la divination, parce qu'il est évident qu'elle s'en est inspirée à toutes les époques, comme elle s'est inspirée également de la démonologie. Pour Albert le Grand et Roger Bacon, l'alchimie, sauf ce tribut d'erreur qu'il faut toujours payer à son siècle, n'avait été, il est vrai, que l'étude des combinaisons agrégatives de la matière et des lois de l'organisme. Mais c'était là une exception, et dès les premiers temps du christianisme, l'école d'Alexandrie avait imprimé à l'art hermétique une direction mystérieuse. La table d'émeraude et ses formules kabbalistiques ouvrirent un vaste champ à d'avides spéculations. Et à travers les siècles de ténèbres, l'alchimie, pour le plus grand nombre, comme pour Nicolas Flamel, eut un but spécial, la production de l'or. Afin de donner à ses opérations une puissance plus grande, l'alchimie ne se borna point à essayer entre les divers corps organisés d'innombrables combinaisons. Tout en soufflant ses fourneaux pour faire germer des lingots, elle invoqua l'influence des astres. Elle emprunta de nombreuses formules à la cabale, à l'astrologie, à la science des nombres, et souvent même, quand la misère démentait ses efforts, quand l'or, objet de tant de veille et d'espérance, ne bouillonnait pas sur le réchaud brillant, elle s'adressait au démon et lui offrait une âme en échange d'une formule. Ainsi, de quelque côté que l'on se tourne dans le monde de l'erreur et du rêve, on trouve toujours l'homme aux prises avec l'impossible, et cette lutte obstinée a pour théâtre la création tout entière. Quand l'astrologue interroge le ciel, la nécromancie interroge la terre pour en faire sortir les morts. Elle évoque les âmes comme la cabale évoque les anges, comme la sorcellerie évoque le démon. Suivant le poète Lucain, elle opérait au moyen de l'emploi magique d'un os de la personne morte qu'elle voulait faire apparaître. Les rabbins avaient la même croyance. Il fallait, suivant eux, prendre le crâne de préférence, sans doute parce que c'était là que l'âme avait fait sa demeure, lui offrir de l'encens et l'invoquer jusqu'à ce que le mort lui-même eût apparu ou qu'un démon prenant sa figure se présentât et parlât en son nom. Le plus ordinairement, on employait les prières de l'Église en y ajoutant quelques formules empruntées à la sorcellerie. On disait aussi que lorsqu'on pouvait se procurer quelques débris des cadavres ou quelques poignées de la terre dans laquelle ils avaient reposé, et à défaut de cette terre, un fragment des pierres de leur tombeau, un morceau de leur croix funèbre, on parvenait, en soumettant ces objets à l'action du feu, à produire, par la combustion des spectres représentant exactement la figure de ceux que l'on cherchait à rappeler de l'autre monde, et on assurait de plus que ces spectres, animés d'une vie factice et éphémère, répondaient distinctement à toutes les questions qui leur étaient adressées. Partant de cette idée que l'âme, dégagée des liens de la chair, a pris une entière possession de ses attributs immortels et qu'elle a l'intuition complète du passé et de l'avenir, le nécromancien évoquait les morts pour connaître dans quel état, béatitude ou damnation, se trouvaient ceux auxquels il s'intéressait et dont il était séparé par la tombe. Pour s'éclairer lui-même sur les mystères de la vie future, pour connaître l'époque de sa mort, de celle de ses proches ou de ses ennemis, enfin, pour s'éclairer sur tout ce qui est indépendant de la prévoyance humaine. Les morts, du reste, n'attendaient pas toujours, on le sait, qu'on les rappelât de leur froid sommeil comme un homme qu'on réveille violemment. Ils revenaient souvent d'eux-mêmes, quand ils avaient de leur vivant promis de revenir. Comme le spectre de Marsile Fissan, le traducteur de Platon, qui se rendit monté sur un cheval blanc chez son ami Michael Mercato, auquel il s'était engagé de révéler les secrets de l'autre monde. Là encore, l'erreur était logique, car elle n'est que le résultat d'un dogme irrécusable, l'immortalité de l'âme. La seconde vie, telle que le christianisme nous l'enseigne, telle que nous l'espérons, se continue avec les souvenirs et les affections de la vie première. Elle s'illumine même de clarté nouvelle. Dès lors, pourquoi l'âme qui se souvient de la terre ne reviendrait-elle pas libre et dégagée de ses entraves vers cette terre qui garde son enveloppe mortelle et où la rappelle le souvenir ? Ainsi, dans ces mystères de la mort et de la nécromancie elle-même, la crédulité qui nous fait sourire n'est que la conséquence immédiate de la plus chère des espérances qui nous consolent. Malgré cette excuse, la nécromancie fut également condamnée dans l'Antiquité et les temps modernes, et sous Constantin, ceux qui s'y livraient encoururent la peine capitale. Plus tard, on les brûla, et à toutes les époques, on les assimila aux violateurs des tombeaux, dans la pensée qu'ils troublaient comme eux le repos de la mort. Les diverses sciences occultes dont nous venons de parler, la cabale, l'astrologie, la divination, la nécromancie, forment chacune, on l'a vu, une spécialité distincte et limitée. Mais il en est une qui les domine et les résume toutes, c'est la magie, devenue la sorcellerie du Moyen-Âge. La sorcellerie, en effet, prédit l'avenir, change et transforme non seulement les éléments, mais même les hommes. Elle évoque les morts, elle tue les vivants à la distance de plusieurs centaines de lieues. Elle donne à ses adeptes la science sans étude, la fortune sans travail. Elle opère une foule de prodiges. Et telle est la terreur qu'elle inspire ou la fascination qu'elle exerce sur ses initiés, que de toutes parts les bûchers s'allument pour les consumer, tandis qu'un grand nombre d'entre eux aiment mieux mourir plutôt que de renier la science qui leur coûte la vie. Comment, dans la croyance du Moyen-Âge, le sorcier arrivait-il à cette puissance supérieure ? Comment opérait-il ces prodiges qui ont épouvanté les vieux âges ? Il les opérait par l'entremise du démon. En d'autres termes, la sorcellerie n'est que le résumé des sciences occultes élevées par l'intervention de Satan à leur dernier degré de puissance. La tradition du passé tout entière est là pour l'attester. Satan, en effet, pour les hommes du Moyen-Âge, n'est point le vaincu de l'abîme. C'est le principe du mal des traditions indiennes, égal en puissance au principe du bien. C'est le dispensateur des trésors, des plaisirs, le révélateur de tous les secrets de la nature. C'est le maître de tous ceux qui veulent jouir et savoir, qui escompte pour des biens périssables les biens éternels, afin d'obtenir l'accomplissement de leurs rêves ou de leurs passions. Voyons maintenant comment s'établissent les relations qui mettent l'homme en contact avec le démon. Nous ne parlerons point ici des possessions qui sont attestées par l'Écriture et par l'Évangile. Nous nous occuperons seulement des rapports qui s'établissent dans la sorcellerie et qui sont relatés dans toutes les légendes démonographiques. Dans la possession, telle qu'elle est définie par la tradition religieuse, c'est le diable qui s'empare de l'homme, qui le pénètre en se transfusant et qui substitue sa volonté à la sienne. Le possédé est dompté à son insu et toujours contre son gré. Dans la sorcellerie, au contraire, c'est l'homme qui va au-devant de Satan. Il l'appelle, il l'invite, il lui offre son âme en échange de ses services, l'asservit à ses ordres et lui dérobe ses secrets. D'un côté, c'est un maître, et de l'autre, c'est un esclave. Quand le sorcier ou celui qui aspire à l'être veut s'unir avec le démon, il commence par renier le baptême. Il se livre, comme pour donner des arts aux profanations les plus sacrilèges, et rédige un contrat en bonne forme dans lequel est stipulé un double engagement. Le diable qui, par là, gagne une âme, ne manque jamais de venir signer, d'apposer sa griffe. Le mot est resté dans la langue. Si le contrat porte que le diable est tenu d'obéir à tous ceux qui se serviront du pacte, il doit se tenir à la disposition des requérants. S'il n'y a point de stipulation semblable, il n'est obligé qu'envers la personne qui a contracté. Dans le premier cas, le pacte est express, dans le second cas, il est tacite. Il y a des contrats perpétuels et des contrats temporaires. Les premiers sont valables jusqu'à la fin du monde entre les mains de ceux qui les possèdent. Les seconds doivent être renouvelés à leur expiration. Dès ce moment, Satan se trouve vis-à-vis de l'homme dans un vasselage complet. Il est juste de dire qu'il remplit toujours ses engagements avec une grande exactitude. Il se laisse enfermer dans des coffres, dans des boîtes, dans des anneaux. Il se laisse mettre en bouteille et, pour mieux servir ses maîtres, on l'a vu rester près d'eux sous la forme de divers animaux. Simon le magicien, le docteur Faust, l'avait condamné à entrer dans le corps d'un chien noir. Del Rio raconte que Corneille Agrippa de Nestesheim avait deux chiens, monsieur et mademoiselle, qui couchaient dans son lit, où se tenaient des jours entiers sur sa table de travail. Le jour de sa mort, Corneille Agrippa, touché de repentir, appela monsieur dans son lit et lui ôtant le collier nécromantique qu'il portait au cou. « Arrière, Satan !» lui dit-il, « arrière, tu m'as perdu, je te maudis et te renie. Laisse-moi du moins mourir en paix. » Le chien, à ces mots, se sauva en hurlant, la queue basse, et courut se noyer dans la Saône. On a su depuis qu'il ne s'était pas noyé, mais qu'après avoir traversé la France, il était passé à la nage en Angleterre, et qu'alors il s'était attaché à une jeune femme de bonne famille qui avait failli être brûlée pour ce fait. La croyance aux pactes infernaux fut, pour ainsi dire, universelle au Moyen-Âge. Tandis que les mystiques, les âmes tendres et rêveuses, se tournaient par l'extase et l'aspiration religieuse vers les joies et les clartés du ciel, ceux qui blasphémaient et qui souffraient, les méchants qui rêvaient le crime, les âmes souillées qui rêvaient le monstrueux plaisir, s'envolaient aussi vers les régions de l'inconnu, mais en se tournant vers l'autre pôle, et les proscrits de cette société incomplète et barbare demandaient aux proscrits de l'abîme les biens que le monde leur refusait, les joies coupables qu'ils ne pouvaient demander à Dieu. Chaque fois qu'un homme s'élevait par son génie ou sa fortune au-dessus de la foule, cette foule ignorante et effrayée l'accusait d'avoir contracté avec Satan. On disait qu'Albert le Grand lui avait demandé le mot des secrets de la nature. L'abbé Trithème, le mot du mystère humain. Virgile, le don de l'harmonie des vers. Faust, la science universelle. Louis Gaufredis de Marseille se donna au diable pour inspirer de l'amour aux femmes, rien qu'en soufflant sur elles. Palma Caillet, l'auteur de la chronologie moyenâgeuse, s'était également livré, corps et âme, à condition que l'esprit malin le rendrait toujours vainqueur dans ses disputes contre les ministres de la religion réformée et qui lui conférerait le don des langues. Le contrat fut trouvé signé de son sang dans ses papiers après sa mort. Et comme le diable, au moment de son décès, était venu chercher son corps et son âme, on fut obligé, pour tromper ceux qui devaient le porter en terre, de mettre de grosses pierres dans son cercueil. En 1778 même, à Paris, un laquais qui venait de perdre son argent au jeu se vendit 10 écus pour avoir un enjeu nouveau. Et vers le même temps, l'anglais Richard Dugdale, qui voulait devenir le meilleur danseur du Lancashire, se vendit pour une leçon de danse. La légende de Théophile, rêvée primitivement par un Titien et transmise au Moyen-Âge par Simur le Métaphraste et Hosvita, l'abbesse de Gandersheim en Saxe, prouve que la croyance aux faits de cette nature remonte à une haute antiquité. Satan, nous l'avons dit plus haut, remplissait exactement ses engagements aussi longtemps que durait le contrat. Mais à l'expiration de ce contrat, il ne manquait jamais de venir réclamer le prix de ses complaisances. Et alors, il fallait les payer cher. Il n'attendait pas toujours, pour s'indemniser de ses peines, que la fièvre ou la vieillesse emportât son débiteur dans l'autre monde. Et pour jouir plus vite de cette âme qui s'était vendue et qu'il regardait comme son bien, comme un bien sur lequel il avait hypothèque, il la déliait souvent lui-même des liens de sa prison charnelle, en tordant le cou à l'homme dont il s'était fait pour quelques jours l'esclave obéissant, afin d'être son maître dans l'éternité. Ce n'était point seulement par le pacte ou contrat infernal que l'homme se mettait en rapport direct avec Satan. On pouvait encore, à l'aide de certaines opérations, de certaines formules, le forcer à sortir de l'abîme, soit pour s'en servir momentanément, soit pour se l'attacher, comme dans le pacte, devant un temps déterminé. Les magiciens, dit Clément d'Alexandrie, se font gloire d'avoir le démon pour ministre de leur impiété et de le réduire par leurs évocations à la nécessité de les servir. D'où vient, dit également saint Augustin, que l'homme, souillé de tous les vices, fait des menaces au démon pour s'en faire servir comme par un esclave. On voit aisément par ces deux passages que la théorie des conjurations était connue dès les premiers siècles de l'Église chrétienne. Et en consultant les écrivains orientaux, grecs et romains, on en suit les traces à travers les siècles païens. Dans l'Inde, on pratiquait la conjuration en regardant certaines couleurs consacrées et en prononçant 8 mots qui signifiaient « Dieu est puissant et glorieux ». C'était ce qu'on appelait les noms efficaces. Chez les Grecs, les lettres éphésiennes jouaient le même rôle. En Égypte, on opérait en nommant les 36 génies qui présidaient aux zodiaques. Enfin, le Moyen-Âge s'inspira de toutes les traditions antérieures. Il ramassa des mots grecs, latins, chaldéens, qu'il mêla au hasard en les défigurant. Il y ajouta, par une profanation sacrilège et toujours dans un but coupable, les mots de la liturgie, les noms les plus respectables, et il en forma une langue barbare, inintelligible, à l'usage des rites de la sorcellerie, en un mot, l'argot infernal. Les démonographes sont loin d'être d'accord sur la manière d'opérer dans les conjurations. Agrippa reconnaît de 3 espèces. Premièrement, par les éléments, Deuxièmement, par le monde céleste, étoiles, rayons, forces, influences. Troisièmement, par le monde des intelligences, religion, mystère, sacrement, Dieu. Il est facile de reconnaître à première vue que le mysticisme, l'astrologie et la cabale se confondent dans cette théorie bizarre. Pour opérer dans la magie, dit Agrippa, il faut une foi constante, de la confiance et la ferme conviction que l'on réussira. Ici, on le voit, nous retrouvons la théorie des magnétiseurs. Suivant Agrippa, la voix a une grande puissance en ce qu'elle exprime l'intention, mais elle ne l'exprime que passagèrement. L'écriture qui la fixe, qui lui donne un corps, est douée d'une puissance encore plus grande. On doit donc, quand on fait une conjuration magique, exprimer le vœu d'abord par la voix et ensuite par l'écriture. Et ce n'est pas à l'écriture vulgaire qu'il appartient de figurer dans de si grands mystères. Il faut aux magiciens, comme aux prêtres des anciens cultes, un caractère accessible aux seuls initiés, une écriture céleste dont le type se trouve dans la juxtaposition des astres. Cette formule est certainement parmi toutes celles que nous avons rencontrées la moins déraisonnable, et on peut par là juger des autres. Suivant quelques écrivains moins enthousiastes qu'Agrippa de l'astrologie et de la cabale, on ne doit dans les invocations s'adresser qu'aux démons. Mais pour que l'opération soit efficace, il faut les nommer tous, et c'est là que l'embarras commence, car il est fort difficile, à cause du nombre, de connaître tous les sujets de ce que les démonographes appellent la monarchie infernale, laquelle se compose premièrement de Belzébuth, empereur de toutes les légions diaboliques, deuxièmement de sept rois, qui sont Baël, Pursan, Bilette, Païmon, Bélial, Asmodée, Zapan, lesquels règnent aux quatre coins cardinaux, troisièmement de 23 ducs, de 10 comtes, de 11 présidents et de quelques centaines de chevaliers, quatrièmement de 6670 légions, formées chacune de 6666 diables, soit pour le tout 44 435 556 diables. Quelques docteurs de sorcellerie compte différemment, en prenant toujours le chiffre 6 pour multiplicateur cabalistique. Ainsi, ils reconnaissent, parmi les esprits de ténèbres, 72 princes, 6 fois 12, et 7 450 926 démons, 1 234 321 multiplié par 6. Il est à remarquer que ce dernier nombre offre tant à gauche qu'à droite les quatre nombres qui constituent la tétrade de Pythagore et de Platon. En opérant sur de pareilles quantités, l'erreur était inévitable, et le cérémonial d'ailleurs se compliquait tellement que quand l'opération manquait, le sorcier pouvait toujours pour lui-même ou pour les autres invoquer l'excuse de l'oubli. Du reste, pour remédier aux défaillances de la mémoire, on avait des livres où se trouvaient consignées les évocations et les conjurations les plus redoutables. Et ces livres, soumis eux-mêmes à une foule de consécrations magiques, acquéraient, par ce seul fait, une sorte de pouvoir surnaturel. Nous avons nommé les clavicules et les grimoires.